Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal à la présentation, Lievin Mwinga.
À vous qui venez de vous joindre à nous et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, reprise des combats depuis ce mardi matin entre FRDC et M23 Lubero sur plusieurs fronts d'ailleurs, et cela après seulement quelques jours d'accalmie. Comme il fallait s'y attendre, cette situation a encore une fois largué plusieurs personnes dans la nature à la recherche des lieux plus sûrs. Nous irons aussi à Mbujimayi où la vice-ministre de l'Intérieur était face aux policiers. Vigilance en ce moment de guerre, ce sont les mots de Jenny Tchiela lancés à l'endroit de ces hommes en uniforme au cours d'une parade. Notre invité est Cheikh Rachidi Muyenga, secrétaire provincial de la communauté islamique du Congo. Il revient sous les assises du Conseil provincial de l'Islam tenu à Kindu la semaine dernière. Mais d'abord, nous venons de l'apprendre, c'est la rencontre ce mardi entre le président kényan et les représentants des églises catholiques et protestantes. William Ruto a à cette occasion plaidé pour la conjonction des initiatives régionales de Nairobi et de Luanda autour du pacte social pour la paix et le vivre ensemble initié par les deux églises, indique le porte-parole de l'ECC, Eric Nsenga. Christian Mapendano pour les détails.
Le président William Ruto a en effet reçu la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo à Nairobi. Il a souligné l'importance d'une synergie entre les efforts nationaux et régionaux pour une paix durable en Afrique centrale. Cet appui de haut niveau renforce la dynamique de paix et ouvre la voie à une collaboration élargie pour le développement et la stabilité de la RDC et de la région, indique le pasteur Eric Nsenga. Le président Ruto a aussi souligné l'importance de ces dialogues et la nécessité d'inclure toutes les parties prenantes à ce processus. Bien avant de rencontrer le président kényan, la délégation des églises protestantes et catholiques ont rencontré à Bruxelles l'envoyé spécial de la Belgique dans les Grands Lacs avec qui ils ont discuté autour de la cohésion nationale de la RDC et la nécessité de trouver des solutions pacifiques avec les différentes parties prenantes. Les représentants de la CENCO et de l'ECC ont, toujours à Bruxelles, rencontré certains acteurs du Front commun pour le Congo, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila.
Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a commis des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que rapporte ce mardi 18 février le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève, la situation dans l'est de la RDC se détériore fortement, entraînant de graves violations des droits de l'homme et des abus tels que des exécutions sommaires, des violences sexuelles et sexistes liées au conflit. Nous y reviendrons avec force détails. Encore de nouveaux déplacés dans le territoire de Lubero. Nous sommes là au Nord Kivu. Ces personnes se déplacent à la suite de la reprise des combats ce mardi matin entre les FRDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Et ces affrontements sont signalés sur plusieurs fronts après plusieurs jours d'accalmie, hélas. Selon des sources locales et sécuritaires, ces combats interviennent précisément dans plusieurs villages, notamment à Mambasa, Ndoluma et Lubango. En tout cas, ces nouveaux déplacés vont à la recherche des zones jugées sécurisées. André Kité pour les détails.
C'est vers 4 heures ce matin, heure locale, que des affrontements ont éclaté entre les FRDC appuyés par les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles du M23 ont attaqué 4 positions des FRDC sur l'axe routier Mambasa-Ndoluma ainsi que sur les axes Mambasa-Lubango, Mambasa-Mutongo et Bingi-Mutongo à environ 60 km de Lubero centre. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Kanyabayonga et Kirumba, rapportent les mêmes sources. D'autres combats sont également signalés à Butsorovia, au sud de Lubero centre. Des sources sécuritaires confirment ces affrontements sans plus de précision. Face à cette nouvelle escalade, un déplacement des populations est observé vers des zones jugées plus sûres, indique la société civile locale. La tension demeure vive dans la région selon des sources locales qui font état de renforts en hommes et en munitions des deux côtés. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Sachez aussi que la vie devient de plus en plus intenable pour la population de la ville de Goma, alerte lancée par les habitants habitants de cette ville du Nord Kivu. Au regard de ce qui se passe, ils comparent la situation actuelle à une prison à ciel ouvert, selon leurs propres mots. Nombreux sont ceux qui ne savent plus comment survivre à cette crise sans précédent. Avec la reprise des activités scolaires ce lundi, un parent, vous allez l'entendre, s'interroge sur ses capacités financières pour payer les frais scolaires, d'autant plus qu'il ne dispose d'aucun accès à son compte bancaire, puisque jusqu'ici, toutes les banques sont fermées. On écoute ce cri de détresse de ce parent qui décrit la situation actuelle à Goma.
On ne veut pas que les fonctionnaires puissent sortir de la ville de Goma. Vous arrivez au niveau de la grande barrière, soit on vous retourne, soit au niveau de Gisène, là, on vous met dans un cachot. Aucune banque ne fonctionne actuellement. Si vous avez par exemple quelque chose dans votre compte M-Pesa, Airtel Money ou quoi que ce soit, dans les shops là-bas, soit vous donnez les 10% de ce que vous allez retirer, et puis on vous donne à un taux de 25 000 francs congolais. Nous sommes des parents, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Nous ne savons pas comment nous y prendre ici au niveau de Goma. Nous sommes bloqués comme si nous étions dans une prison à ciel ouvert. Même les familles ne savent pas comment trouver quelque chose à manger, donc on ne sait pas bouger. Les enfants ont repris timidement l'école. En tant que parents, nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre pour payer les frais scolaires des enfants. Toutes les banques sont fermées, nous ne travaillons plus. Nous sommes restés à la maison pratiquement dans 10 jours, ici ça fera un mois. Les choses s'empirent du jour au lendemain. Donc c'est difficile, la vie est intenable ici au niveau de Goma. Nous sommes en difficulté totale.
Vous avez compris, nous avons un peu brouillé la voix de ce parent pour des raisons de sécurité. Bonne nouvelle quand même, face à toutes ces difficultés, c'est l'ouverture du couloir humanitaire dans la région de Goma, permettant ainsi l'acheminement de l'aide essentielle aux populations dans le besoin. C'est ce qu'a annoncé samedi 15 février le ministère de la Santé publique sur son compte X. Déjà la veille, le ministre de la Santé, Roger Kamba, annonçait qu'un corridor humanitaire était en négociation. L'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Le ministère va envoyer des kits de traumatologie et de médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma, selon Roger Kamba. D'après lui, les hôpitaux de Goma ont enregistré 4260 blessés depuis l'attaque de cette ville par les membres du M23 soutenu par le Rwanda. Cette attaque a mis à rude épreuve le système sanitaire congolais. Et puis rien ne va plus non plus du côté du Sud Kivu où la situation humanitaire demeure critique. Pour preuve, des milliers de déplacés de territoires affectés par la progression des rebelles M23 soutenus par le Rwanda n'ont pas reçu d'assistance sanitaire, abri, vivre ou non vivre. Ronlin Timbonera nous présente la situation.
Les territoires affectés sont Kalehe, Kabare et peut-être bientôt Walungu, vers où les rebelles progressent depuis hier. Pour faire face à cette crise humanitaire de grande ampleur, OCHA est en train de monitorer la situation en vue de relancer les activités dans les 48 heures qui suivent. C'est ce que nous avons appris d'une source proche du Bureau des coordinations des agences du système des Nations Unies. Les besoins humanitaires dans la ville de Bukavu seront aussi pris en compte à la faveur de l'accalmie observée depuis hier. Bukavu n'a pas connu des affrontements croisés, mais les pillages à grande échelle qui s'y est déroulé amplifient la misère de la population. Nos sources ajoutent que la réouverture du port de Goma au trafic lacustre facilitera les humanitaires à reprendre les activités dans les endroits accessibles, notamment Ijui et Tchofi, et que de bateaux pourront ainsi quitter Bukavu pour Ijui.
La province du Maniema subit aussi les conséquences de la guerre de l'Est de la RDC. Plusieurs mouvements de déplacés sont signalés dans le territoire de Lubutu, dans le nord de la province. Selon la société civile locale qui lance cette alerte, ces déplacés sont ceux-là même qui fuient la guerre au nord et sud Kivu. Notre source ajoute que ces Congolais qui sont accueillis dans les familles d'accueil vivent sans aucune assistance. Contactez le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité confirme l'information. Lawa Moselemani sollicite l'aide du gouvernement central car la province, dit-il, a des ressources limitées. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
Oui, nous sommes au courant qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont entrés au niveau de Lubutu. Selon les informations, ils seraient en train de fuir les exactions de ces agresseurs rwandais qui sont en train de commettre beaucoup d'abus à gauche et à droite. Raison pour laquelle ils ont pris pour milliers de réfuges la province du Maniema, particulièrement le nord. Comme vous savez, le nord est en contact avec le territoire de Walikale, directement avec le nord Kivu. Dans l'hospitalité du Maniema, nous avons demandé aux administrateurs du territoire, tous d'ailleurs, de pouvoir identifier toutes les personnes déplacées qui se retrouvent dans leurs entités. Et surtout en prenant des précautions pour leur sécurité et leur encadrement, avec un regard particulier aux femmes et aux enfants. Comme vous le savez, actuellement, la province du Maniema, on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir faire face à cette situation, à se déplacer. Raison pour laquelle nous tendons la main au gouvernement central et aux humanitaires de pouvoir nous venir en aide pour que nous puissions assister nos frères qui sont en train de fuir ces exactions de ces forces étrangères qui agressent la RDC.
Pour sa part, l'Alliance des leaders de la société civile dit avoir un schéma de sortie de crise sécuritaire qui écume la partie est du pays. Son coordonnateur, Jean-Marie Tantoumé, l'a dévoilé dans un entretien accordé ce mardi à Radio Kapi. Il s'agit selon lui de l'organisation d'une concertation interne entre le pouvoir, l'opposition non armée et la société civile en vue de faire bloc contre l'agresseur. Jean-Marie Tantoumé a souhaité que ce front commun puisse par la suite négocier avec le gouvernement et la société civile du Rwanda sous l'égide de l'ONU et des organisations africaines, dont l'Union africaine, la SADC, l'EAC. Suivez ces propos au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
L'Alliance des leaders de la société civile constate avec beaucoup de regret que malgré les entretiens de la CENCO et de l'ECC avec le président Kagame, le M23 et l'AFC, ainsi que tous les nombreux appels au cessez-le-feu pour une solution pacifique, la conquête de l'Est par le Rwanda se poursuit allègrement. L'Alliance des leaders de la société civile, qui a écrit au chef de l'État pour une concertation interne entre le pouvoir, l'opposition pacifique et la société civile en vue d'un front commun, l'exhorte à se ressaisir et à organiser très rapidement cette rencontre afin d'éviter de subir la répétition du schéma AFDL. Nous devons arrêter l'accès au pouvoir par les armes. À l'allure où avance l'agresseur, l'initiative de la CENCO et de l'ECC risque de n'aboutir à rien. Le président Kagame et le M23 auraient dû, par respect et par considération à leur hôte, la CENCO et l'ECC, suspendre le combat.
Et puis ce geste de cœur de OCHA, 2 millions de dollars américains, c'est le fonds mobilisé par cette agence humanitaire pour assister plus de 100 000 personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions de précarité dans la province du Kwilu. Il s'agit des personnes ayant fui leur milieu de vie à la suite de la persistance des hostilités perpétrées par la milice Mobondo, notamment dans le territoire de Kwamout en province du Maïndombe. Le chef d'antenne de OCHA, à Bandundu, Ngongo Selemani l'a annoncé le week-end dernier à Bandundu lors du lancement du projet Réponse multisectorielle d'urgence et d'appui à la résilience des déplacés dans les zones de santé de Bandundu et de Bagata au Kwilu. Direction Mbujimayi où la vice-ministre de l'Intérieur était face aux policiers. Vigilance en ce moment de guerre, ce sont les mots de Jeannie Tchiela lancés à l'endroit de ces hommes en uniforme au cours d'une parade. C'était au commissariat provincial du Kassai oriental. Esther Ndalafina nous fait le point.
Après son arrivée à Mbujimayi, Eugénie Tchiela s'est d'abord entretenue avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwe Kapo. Elle s'est ensuite rendue au commissariat de la police nationale congolaise où elle a présidé la parade. Devant les agents de police, Eugénie Tchiela leur a demandé d'être vigilante car le pays est en guerre. Signalons que le Kassai central constitue la deuxième étape de la mission de la vice-ministre de l'Intérieur. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, le gouvernement annonce la délocalisation prochaine des habitants de l'île aux singes après les récurrents cas d'inondation qui la rendent inhabitable, plus communément appelée île Mbongo Soa. Elle est un territoire centrafricain situé au milieu de la rivière Ubangi, entre la capitale Bangui et la ville congolaise de Zongo. Chaque année, les 2000 habitants sont victimes d'inondations et ne peuvent pas aisément pratiquer la pêche, l'agriculture et l'élevage. Dépassés, ils ont demandé aux autorités centrafricaines de les reloger.
L'invité.
Notre invité est Cheikh Rachidi Muyenga, secrétaire provincial de la communauté islamique du Congo. Il revient sur les assises du Conseil provincial de l'islam tenu à Kindu la semaine dernière. Cheikh Rachidi Muyenga, notre invité, s'entretient ici avec Florence Kizalungu.
Cheikh Rachidi Muyenga, bonjour.
Bonjour madame Florence Kizalunga.
Vous venez du Conseil provincial de l'islam, qui est un organe suprême en province pour traiter tous les problèmes relatifs à l'islam. Quelles sont les grandes décisions prises à l'issue de ces assises?
Merci beaucoup. Le conseil s'est tenu au lieu de 3 jours. Nous avons prolongé pendant 5 jours compte tenu de l'intensité des matières. Et les grandes décisions qui ont été retenues, c'est par exemple cultiver l'unité des musulmans au lieu de cultiver la division, il faut que nous soyons ensemble, accompagner le gouvernement dans ses projets et aussi créer les unités de production. Par exemple, la culture de cacao, la culture de paddy, l'érection des étangs piscicoles et consorts pour l'intérêt de la communauté. Nous avons aussi martelé sur éviter les disputes honteuses quand nous partons à l'Assemblée générale. Au niveau de l'Assemblée générale, chaque fois, chaque province se retire pour présenter les candidats qui vont diriger la province. Avant d'y aller, pour éviter ces disputes, nous avons aussi trouvé opportun de désigner nos dirigeants à partir de ces conseils qui nous n'allons que présenter à l'Assemblée générale pour l'adoption. Nous avons aussi pris une grande décision de désavouer le coordinateur provincial des écoles conventionnelles islamiques qui se distingue par l'incompétence, l'orgueil, les caprices et une mauvaise collaboration avec les autorités communautaires et j'en passe. Voilà les 4 grandes décisions que nous avons retenues parmi d'autres qui sont nombreuses.
Alors, c'est dans quel sens ou comment vous allez accompagner le gouvernement provincial dans ses activités?
Nous allons accompagner le gouvernement dans ses activités puisque le gouvernement à son plan d'action et nécessite aussi l'accompagnement des confessions religieuses. C'est dans ce cadre que les confessions religieuses vont accompagner le gouvernement par la sensibilisation afin que les adeptes se conforment au programme qui sera arrêté par le gouvernement.
Le maniement, c'est le berceau de l'islam. Est-ce qu'on peut croire qu'après ces assises, il y aura plus de conflits d'intérêts, des disputes qu'on a toujours assisté au sein de l'islam? Au maniement.
C'est l'objectif principal de ces assises, puisque nous avons passé 4 ans de disputes depuis que l'on a tranché en désignant un seul dirigeant au niveau national en la personne de Cheikh Abdallah Mangala Luaba. Et en province, cette décision a été entérinée par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province en considérant le cas Cheikh Abdallah Mangala qui est dirigé par Cheikh Omar Morich. Donc à partir de ça, les conflits sont enterrés et nous sommes obligés d'être derrière les dirigeants qui étaient désignés et je pense qu'il n'y aura plus de conflits.
Est-ce que ces assises ont été élargies même jusque dans les territoires?
Oui, avant de tenir le conseil provincial de l'islam, on a commencé par organiser les conférences régionales. Donc, ce sont les assises qui ont été organisées au niveau de chaque territoire. Les résultats ont été présentés pour constituer les résolutions du conseil provincial de l'islam.
Vous avez aussi pris la décision de mettre à côté les coordonnateurs de l'école. Ce n'est pas une frustration pendant cette période?
Ce n'est pas une frustration, puisque la proposition de désignation d'un coordonnateur provincial relève de la compétence exclusive de l'imam provincial, le chef d'entité, qui propose, mais après avoir analysé la façon dont l'autre est en train de travailler, j'ai bien dit qu'il se distingue par l'incompétence notoire, l'orgueil, la mauvaise collaboration, l'insubordination. Donc, même devant le conseil, il a manifesté ce comportement qui a fait de sorte que tous les participants soient un peu déçus avec sa présence à la tête des écoles conventionnelles islamiques.
Alors, dans les chefs de chaque structure, on a toujours eu l'habitude de prendre de belles et de bonnes décisions. Comment est-ce que vous allez faire pour les suivis de tout ce que vous avez arrêté lors de ces assises?
Les participants sont venus de tous les coins. Et comme nous sommes en train d'élaborer les résolutions sur les documents, nous allons distribuer ces documents à chaque représentant régional qui fera la vulgarisation et les suivis pour son application, sa stricte application dans des territoires.
Alors, vous venez de ces cette rencontre, de ces conseils provinciaux de l'islam, qu'est-ce que vous dites à tous les musulmans qui n'ont pas pu participer à ces assises?
Le grand mot, nous invitons tous les musulmans à cultiver l'unité et à lutter contre les divisions. Nous devons être tous pour poursuivre la volonté de Dieu et respecter les instructions qui sont sorties dans ce conseil provincial, qui reste le thermomètre consultatif pour le bien-être de l'islam et sa communauté au Maniema.
Chez Rachid Dimouyenga, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kizalunga.
Voilà, merci également à Florence Kizalunga. Et c'est la fin de ce journal qui a été mené demain de maître par Martin Sebouchangoué, Richard Junior Kamunga et Dieudonné Nyangassa. Excellente journée à toutes et à tous.